Bonjour et bienvenue avec le micro ouvert, c'est mieux. 15h, temps universel, 17h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la date des obsèques du pape François, ce sera samedi prochain, 26 avril, sur décision des cardinaux. Les mêmes cardinaux réunis en conclave éliront ensuite le nouveau chef de l'Église catholique. Les réactions et les hommages continuent d'affluer dans ce journal, l'Irak, où s'était rendu le pape François. Au menu également, la fronde des universités américaines attaquées par l'administration Trump. Le FMI abaisse sa prévision de croissance mondiale en raison de la guerre des taxes. Et du basket en Euroleague, Paris Basket et l'invité surprise de la phase finale. Donc on connaît maintenant la date des obsèques du pape François, ce sera samedi 26 avril à 10h du matin. La date a été arrêtée par les cardinaux réunis ce matin en assemblée, ces mêmes cardinaux qui dans quelques jours se retrouveront cette fois en conclave pour élire le successeur de François, mort hier matin à l'âge de 88 ans. Samedi, de nombreuses personnalités politiques, dirigeants et têtes couronnées assisteront aux funérailles. Parmi les derniers ayant annoncé leur présence, le Premier ministre britannique, le président argentin, le roi et la reine d'Espagne. Direction maintenant l'Irak, où François avait été le premier pape à se rendre après une tentative ratée de Jean-Paul II, plus de 20 ans auparavant. Les Irakiens gardent le souvenir d'un porteur de messages d'unité entre les religions. À Bagdad, pour RFI, Marie-Charlotte Roupy.
À Bagdad, les murs de certaines églises arborent encore des messages célébrant la venue du pape François en 2021. L'Irak commençait alors à peine à se relever de la guerre contre l'État islamique. Cette visite historique a marqué les esprits.
Que Dieu ait pitié de son âme. Nous avons été soulagés quand nous l'avons vu. Tout le monde, les musulmans et les chrétiens, ont marché derrière lui.
Hafaf est chiite. Par hasard, elle a voulu ce jour-là visiter la cathédrale chaldéenne de Saint-Joseph, d'où le pape François s'était exprimé. Elle se souvient avec tendresse de son message diffusé en direct à la télévision.
Il parlait de paix, pas seulement en Irak, mais dans tous les pays arabes et particulièrement du fait que les chrétiens et les musulmans sont frères pour toujours, que les uns aident les autres. C'était ça son message.
Ce message de fraternité, il l'avait porté jusqu'à Najaf devant la plus haute autorité chiite irakienne, l'ayatollah Ali Sistani. Pour le père Nadir Dako, le prêtre de la cathédrale, le pape François avait ouvert une voie au dialogue interreligieux dans le pays.
Cela a enlevé beaucoup de pression aux chrétiens. C'était un message de réconfort qui a donné à tous les Irakiens confiance en une paix possible.
Le décès du pape est selon lui une grande perte pour la communauté chrétienne d'Irak, mais il insiste, les idées qu'il portait lui survivront ici. Marie-Charlotte Roupy, Bagdad, RFI.
À l'image de la Chine qui, ce matin, a présenté ses condoléances, les réactions continuent d'affluer, certes beaucoup moins qu'hier. En 12 ans de pontificat, le pape argentin s'était engagé sans relâche à défendre les migrants, l'environnement et la justice sociale, sans pour autant remettre en cause les positions de l'Église catholique sur l'avortement ou le célibat des prêtres. Avant les obsèques samedi, le corps repose dans un cercueil ouvert, encadré de deux gardes suisses dans la chapelle de la résidence où vivait François au Vatican. Enfin, on vient de l'apprendre, en France, samedi, les jours des obsèques, samedi, les drapeaux seront mis en berne en France. Le Fonds monétaire international abaisse sa prévision de croissance mondiale pour 2025. Elle passe à 2,8 contre 3,3% précédemment. Le FMI juge que les droits de douane voulus par Donald Trump et les mesures de rétorsion prises par les autres pays vont fortement peser sur l'activité économique. Le vice-président américain J.D. Vance est depuis hier en Inde, pays qui cherche, comme des dizaines d'autres, un accord commercial avec les États-Unis, mais à la table des négociations, Washington imposerait à ses partenaires de choisir leur camp, Washington ou la Chine, ce qui bien sûr irrite Pékin, Nicolas Feldman.
Isoler l'économie chinoise ou voir ses produits surtaxés. Le plan de l'administration Trump pour forcer ses partenaires à négocier fait réagir le ministère chinois du commerce. Pékin s'oppose fermement à tout accord qui se ferait au détriment de la Chine. Si de tels accords étaient conclus, ajoute le communiqué, la Chine ne l'acceptera pas et prendra des contre-mesures réciproques. Du Japon à l'Inde en passant par Taïwan, presque tous les voisins de la Chine sont en discussion avec les États-Unis. Cette semaine, ce sont des ministres sud-coréens qui sont attendus à Washington. Séoul s'inquiète notamment des conséquences conséquences des surtaxes sur ces géants Samsung et le constructeur automobile Hyundai. Si jusqu'ici Pékin répond aux attaques commerciales de Washington en imposant des droits de douane aux produits américains, les autorités chinoises veulent dans le même temps s'assurer du soutien des autres pays de la région et multiplient pour cela les initiatives diplomatiques. La semaine dernière, le président Xi Jinping était en Malaisie, au Cambodge et au Vietnam pour conclure des accords commerciaux.
Dans l'actualité économique également, un procès qui pourrait aboutir au démantèlement de Google. Le géant de la tech comparé devant un tribunal de Washington pour abus de position dominante. Il risque d'être condamné à vendre son navigateur Google Chrome. Emmanuel Macron poursuit son voyage officiel dans l'océan Indien. Après Mayotte, il est maintenant à La Réunion, autre département français. Le président est sur place pour faire le point sur les dégâts provoqués par le cyclone Garance. Également évoqué lors de sa visite, l'épidémie de chikungunya qui, depuis le début de l'année, a fait 6 morts à La Réunion. Emmanuel Macron écourte sa tournée. Il a annoncé à La Réunion qu'il se rendrait samedi aux obsèques du pape François, reportant ainsi sa visite prévue à l'île Maurice. Aux États-Unis, la contre-attaque des universités mise en cause par l'administration Trump. Plusieurs d'entre elles ont vu leur financement gelé. Le gouvernement leur reproche notamment de ne pas lutter contre l'antisémitisme. Harvard a saisi la justice et plus de 100 présidents d'universités ont engagé une réponse commune. Nicolas Roca.
Face à l'offensive de Donald Trump qui menace leur indépendance, les universités veulent parler d'une seule voix et appellent à un dialogue constructif. Des institutions prestigieuses, Harvard, Princeton ou Brown, comme des établissements plus modestes, dénoncent l'usage coercitif des fonds publics par l'administration Trump. Ils accusent le gouvernement américain de couper leur financement pour les contraindre à appliquer sa vision politique, à savoir la suppression des programmes pour l'inclusion et la diversité et une lutte efficace contre les mouvements pro-palestiniens qui propage, selon l'administration, l'antisémitisme dans les campus. Un prétexte, répond Harvard. L'université de Boston est en première ligne dans ce dossier. Elle a été la première à déposer un recours en justice. Celle-ci accuse l'État de geler les financements pour contrôler les prises de décision de l'université et donc de violer le premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression. Harvard a déjà vu 2,2 milliards de dollars de ses fonds gelés pour avoir refusé d'appliquer ces mesures. Certains projets de recherche, notamment en santé publique, ont déjà été mis en pause.
C'est demain à Londres qu'aura lieu un nouveau round de discussions entre l'Ukraine et ses partenaires occidentaux. L'objectif étant de parvenir à un cessez-le-feu avec la Russie. Ukrainiens, Américains, Français et Britanniques s'étaient rencontrés jeudi dernier à Paris, une première dans ce format. Côté français, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a expliqué ce matin pourquoi, selon lui, la trêve de Pâques avait échoué entre la Russie et l'Ukraine. Il a dénoncé une opération marketing de Vladimir Poutine afin d'éviter que Donald Trump ne s'impatiente. Le Pakistan a lancé il y a 3 semaines une campagne massive d'expulsion de migrants afghans. Selon Islamabad, ils sont plus de 100 000, en majorité des enfants, à avoir quitté le Pakistan. Le gouvernement pakistanais accuse les 3 millions d'Afghans vivant sur son sol d'être liés au terrorisme et au narcotrafic. Dans l'actualité économique du jour, enfin du basket avec le début des quarts de finale en Euroleague, la principale Coupe d'Europe. Deux équipes du championnat de France sont en lice, l'AS Monaco Basket et Paris Basketball, parvenu à ce stade de la compétition dès sa première participation. Il affronte le Fenerbahçe Istanbul dans une série disputée au meilleur des 5 matchs, format où l'effet de surprise entrevu ne suffira plus. Babacar Diarra.
Jusqu'ici, la chasse des Parisiens a été prolifique. Le club de la Porte de la Chapelle a accroché à son tableau des cadors du continent, dont les deux clubs athéniens, le Panathinaikos et l'Olympiakos, ou encore le club le plus sacré en Euroleague, le Real Madrid, battu lors d'un barrage pour les quarts. Des exploits successifs qui ont donné de l'appétit aux coéquipiers du meneur américain TJ Shorts, nommé parmi les 3 meilleurs joueurs de la saison. Mais faire des coups ne suffit plus à l'orée des quarts de finale disputés au meilleur des 5 rencontres face au Fenerbahçe Istanbul, seul demi-finaliste de la saison dernière. Que Paris n'a pas pu dompter. Fin mars, le coup n'était pas passé loin en terre turque, avec une défaite d'un point subie sur un panier au buzzer, et l'effectif plus dense des Stambouliotes, à la masse salariale presque 3 fois supérieure à celle de Paris, pourrait amplifier la différence entre les deux équipes, car après avoir déjà disputé 65 matchs en 7 mois, ce Paris boulimique s'est aussi calé une finale de Coupe de France à disputer samedi, après les 2 premiers rendez-vous de son quart européen. Choisir entre les compétitions, ce serait renoncer. soit tout sauf l'ADN du Paris Basketball.
Fenerbahçe contre Paris Basketball ce soir, Istanbul, à Istanbul, 17h45, TU. Bonne journée sur RFI, tout de suite, Nathalie Amar, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, et à tout à l'heure.